Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On trouve vraiment dans l'Apocalypse des choses très intéressantes sur la conduite que nous devrons adopter dans les épreuves finales de l'Église, mais également dans les épreuves qui précèdent, et dès aujourd'hui. En effet, l'Apocalypse n'annonce pas seulement les épreuves de l'Église, mais notre réponse à ces épreuves, et ce qu'il adviendra de nous en fonction de notre attitude. L'Église aura deux alliés, et donc nous aussi, nous aurons deux alliés, témoins de la vérité face à l'erreur, témoins de la charité face à la haine, ce sont Hénoc et Élie, mais leur nom n'est pas donné dans l'Apocalypse. Et saint Césaire d'Arles voit dans ces deux témoins, ces deux alliés, les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ne soyez pas surpris qu'il puisse y avoir deux interprétations pour la même phrase, la même réalité, car l'une des interprétations est le support de l'autre. Élie et Hénoc mettront en valeur les deux testaments. L'Ancien Testament qui annonce le Messie, la mort de Jésus sur la croix et tout ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et cela sera un témoignage extraordinairement clair pour les Juifs, et puis le Nouveau Testament qui est évidemment le témoignage le plus clair pour tous les chrétiens. Ces deux témoins, que ce soit Hénoc et Élie ou les deux testaments, seront à la fois des candélabres et des oliviers. Des candélabres qui rayonnent la lumière de la foi et de la vérité, des oliviers qui déverseront la douceur de la charité. Or, ces deux témoins auront le pouvoir d'ouvrir les cieux et de les fermer. Ne voyons pas ce combat sous un aspect seulement extérieur, du fait que les deux témoins pourront également changer l'eau en sang, et du fait que nous avons tendance facilement à imaginer tous les combats, surtout quand ils sont aussi poignants que celui-ci ou que ceux-ci, à les imaginer de façon extérieure, de façon militaire, de façon sanglante. En réalité, c'est à l'intérieur des âmes que se fait le combat. S'il y a mise à mort, c'est d'abord aux âmes que les ennemis de l'Église veulent s'en prendre, et c'est les âmes dont Dieu parle quand il parle de la mort des pécheurs, c'est évidemment le péché. Voyez le combat, la guerre, on peut dire, du Concile Vatican II. Monseigneur Lefebvre disait qu'il avait connu trois guerres, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et Vatican II, et que la pire des trois avait été Vatican II. Or, pourtant, ce ne fut pas une guerre sanglante, mais elle fit, dans les âmes, certainement beaucoup plus de dégâts que les deux premières guerres. Donc, il y aura peut-être du sang dans les persécutions dernières, mais il y aura surtout l'enjeu des âmes. Il faut aller plus loin. Certains interprètes, en raison de ce que ces deux témoins du Christ et de l'Église auront le pouvoir de changer l'eau en sang, c'est ce que dit l'Apocalypse, ces interprètes pensent que ces témoins feront des miracles extraordinaires. Et ceux qui ne se convertiront pas à la lumière de la foi, approuvés, appuyés par les miracles, seront d'autant plus inexcusables, et il sera juste que les cieux leur soient fermés. Mais d'autres interprètes pensent au contraire qu'il faut prendre les avertissements de l'Apocalypse dans un sens seulement spirituel, et que les témoins ne feront pas de miracles, car le temps en sera révolu, ce sera le temps du triomphe de la foi pure. Le jour des sacres des quatre évêques en 1988, au repas qui suivit la cérémonie, Monseigneur prit la parole et déclara « J'ai dit à la Sainte Vierge, Vous êtes apparu à des petits-enfants pour des choses bien moins importantes que les décisions que je dois prendre. Vous pourriez bien m'apparaître à moi aussi pour me dire ce que je dois faire. Mais non, elle ne m'est pas apparue. Et c'est normal. Dieu, après avoir beaucoup aidé par des miracles, veut qu'il y ait le triomphe de la foi pure. Et la foi de Mgr Lefebvre a finalement été une lumière bien meilleure, beaucoup plus vive et surtout beaucoup plus élevée que s'il avait fait des miracles. Et il fallait que nous, qui devions continuer son œuvre, nous n'ayons pas comme fondement des miracles, mais comme fondement la foi, transmise par Mgr Lefebvre, bien sûr, mais une foi qui est claire et qui fait qu'une fois qu'elle est reçue, elle devient nôtre. La lumière de Mgr Lefebvre fut largement suffisante pour les âmes de bonne volonté, et ceux qui sont allés à l'opposé de lui l'ont fait en mettant des considérations humaines avant celles de la foi. Le ciel leur est alors fermé, en sorte qu'ils ont des yeux et ne voient plus, des oreilles et n'entendent pas. Car si le texte de l'Apocalypse dit que les deux témoins pourront fermer le ciel à leur gré, c'est-à-dire à chaque fois que cela sera nécessaire et utile pour la gloire de Dieu, qu'ils pourront fermer le ciel en sorte qu'il ne pleuve plus, cela peut s'entendre de la sécheresse de la terre pour les cultures, cela peut s'entendre évidemment de la justice de Dieu. Eh bien, il est important de noter que si, pour sa plus grande gloire, Dieu peut offrir une grâce puissante à de grands pécheurs qui avaient cependant tout fait pour la rejeter, une grâce de miséricorde extraordinaire, tous verront alors que la grâce et le salut viennent de Dieu et non de l'homme. Dans d'autres cas, pour sa plus grande gloire, il peut aussi laisser à ses propres forces le pécheur qui a méprisé sa grâce et ses lumières. C'est ce qu'il fit avec Pharaon. Dieu dit à Moïse, « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » Non pas que Dieu ait endurci le cœur au sens propre, car Dieu ne provoque jamais le péché, mais en ce sens qu'il laissa Pharaon suivre sa révolte jusqu'au bout et s'endurcir le cœur. Eh bien, c'est cela, fermer les cieux. Dire que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, ou dire que Dieu fermera les cieux pour qu'il ne pleuve plus, c'est la même chose. Faisons bien attention, car nous avons beaucoup trop tendance à croire que la grâce nous est toujours due. Nous avons beaucoup trop tendance à croire que parce que nous avons été fidèles jusqu'à maintenant, nous le serons nécessairement jusqu'à la fin, alors que toute fidélité est un don de Dieu, et que persévérer dans la fidélité est également un don de Dieu, et que persévérer dans la fidélité au milieu des grandes épreuves est un grand don de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veuille pas faire ce don, ne veuille pas le donner, non. Cela veut dire que ce n'est pas un dû, que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, que ce n'est pas nous qui pouvons décrocher, si je puis dire, la grâce de Dieu, l'obtenir par nos propres forces. Et ce sera justement un des grands moyens de la gloire de Dieu dans les derniers temps. Dieu montrera, fera le partage entre les humbles qui s'appuient sur lui et feront des merveilles, et les orgueilleux qui s'appuient sur eux-mêmes et tomberont lamentablement. Les cieux seront ouverts aux humbles, ils seront fermés aux orgueilleux. Et quand je dis les orgueilleux, il peut y avoir un orgueil de la foi. Il peut y avoir un orgueil de mérite réel, à savoir que celui qui a fait beaucoup pour Dieu avec la grâce de Dieu peut, après cela, s'enorgueillir, oublier que tout cela était un don de Dieu, oublier qu'il n'a pu réaliser cela qu'avec l'aide de Dieu, et après avoir été un bon serviteur, il peut se prendre pour un maître tout-puissant et indépendant. Cela peut se faire explicitement, cela peut se faire également implicitement, c'est-à-dire presque sans qu'on s'en rende compte. On lit dans le récit 4 ans prisonniers avec l'Eucharistie que le clergé d'une ville importante de Hongrie se trouve en prison, tous les prêtres ensemble avec les séminaristes, au début de l'ère communiste, et que petit à petit, tous ceux-ci finissent par non pas tomber bruyamment, mais lâcher petit à petit. Ils lâchent leur bréviaire pour éviter d'avoir des problèmes. Ils acceptent qu'on enlève les croix pour éviter une persécution plus violente, disent-ils. Ils cessent de dire la messe en cachette. Ils cessent de prier ensemble. Ils prétendent qu'ils vont prier chacun dans leur cœur. Et au bout du compte, il n'en reste plus qu'un. Un qui a refusé tout ce que les communistes demandaient, qui n'a pas eu peur des persécutions, et qui même a été, du coup, durement traité, non pas persécuté par le sang, mais durement traité. Et à chaque fois qu'il était traité plus durement, c'était l'occasion d'un apostolat magnifique. Il ne cessa de dire la messe en cachette, il portait toujours sur lui le Saint-Sacrement, et il put ainsi communier de nombreux prisonniers qui, sans cela, auraient désespéré. Et même certains qui n'auraient peut-être pas désespéré, mais qui ont eu dans la prison la grande consolation de pouvoir recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Lisez ce livre, 4 ans prisonniers avec l'Eucharistie, il en vaut vraiment la peine. L'Apocalypse nous avertit donc. Elle nous annonce les combats, cela tout le monde le sait, et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche un peu trop souvent dans l'Apocalypse. Elle nous annonce la nature de ces combats. Elle nous annonce l'enjeu, c'est-à-dire le salut des âmes. Elle nous annonce l'aide que Dieu donnera à son Église. Je vous ai déjà fait 1 ou 2 sermons sur le sujet. Mais comme je viens de vous le dire, elle nous annonce que dans sa justice, Dieu fermera les cieux et empêchera la pluie de la grâce bien sûr, de tomber quand il estimera que ce sera juste. C'est évidemment un avertissement à nous préparer. Le sapeur Camembert, vous ne connaissez pas le sapeur Camembert, c'est dommage, c'est très drôle. Le sapeur Camembert avait un ami qui était responsable de la caserne des pompiers. Et il avait décidé que pour ne jamais être pris à l'improviste, il ferait une répétition avec les pompiers la veille de chaque incendie. Évidemment, c'est risible parce que lui ne savait pas quand auraient lieu les incendies. Mais nous, nous savons. Nous le savons parce que les luttes de la fin du monde sont déjà commencées, parce que nous sommes en plein milieu de ces luttes, parce que 10 000 sont déjà tombés à notre droite et 1 000 à notre gauche, 10 000 à droite dans la prospérité et 1 000 à gauche dans l'adversité, c'est ce que nous dit le psaume des complis. Alors préparons-nous et n'attendons pas qu'il soit trop tard. Ne faisons pas comme ces prêtres de Hongrie. Il ne suffit pas d'être persécuté pour avoir une garantie de fidélité. Comment nous préparer? La prière tout d'abord. Mais une prière dans laquelle nous voulons obtenir ce que nous demandons. Alors que trop souvent, nous espérons que par la prière, nous obtiendrons sans effort. Et trop souvent, notre prière a pour but, même si nous ne voulons pas nous le dire expressément, a pour but de nous éviter les efforts, que la Sainte Vierge nous donne ceci sans que nous ayons à faire d'efforts. J'ai rencontré il y a quelques années un prêtre missionnaire qui me dit « Est-ce que vous obtenez vraiment ce que vous demandez dans votre prière ?» Je dis « Oh, mon père, pas vraiment. » Il me dit « C'est parce que vous ne savez pas prier. » C'est parce que vous ne voulez pas vraiment obtenir ce que vous demandez dans la prière. Si vraiment vous vouliez l'obtenir, la Sainte Vierge vous le donnerait. Eh oui, il y a des choses que nous voulons obtenir qui nous font plaisir, là, il n'y a pas de difficulté, il y en a d'autres qui supposent des efforts, et nous ne les demandons que du bout des lèvres parce que les efforts nous font peur. Voyez un enfant qui demande une bicyclette à ses parents. Il ne demande pas du bout des lèvres. Il demande avec fermeté. Il espère bien avoir sa bicyclette. La deuxième chose après la prière, c'est de plaire à Dieu. Il est évident que Dieu donne ses grâces à celui qui lui plaît, qui fait tout pour lui plaire, et il les refuse à celui qui lui déplaît, c'est-à-dire qui ne cherche pas à pratiquer la vertu, qui ne cherche pas à faire ce que Dieu attend de lui, qui ne cherche pas à vivre dans la charité. Or, ce qui plaît le plus à Dieu, c'est la conversion des pécheurs. Miséricorde, attention, attention désintéressée, pardon des offenses. Ce n'est pas le moment de développer cela, mais je vous invite à y réfléchir, d'autant plus que tous les textes du carême, pas tous mais beaucoup, nous parlaient justement de cela, les œuvres de miséricorde, le pardon des injures, des offenses, pas seulement des injures, des offenses. Il faut qu'à notre tour, nous soyons des chandeliers comme les deux témoins dont parle l'Apocalypse, que nous soyons des oliviers comme eux, c'est-à-dire que notre foi rayonne, que notre charité déborde. Et enfin, troisième moyen, la fidélité au Saint-Esprit, ne pas dire « demain ». Or, le Saint-Esprit nous demande une vraie fidélité. Saint Paul nous avertit « Ne contristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous ». Trop souvent, nous nous disons « Oh, c'est moi qui ai pris telle résolution, j'aurais pu ne pas la prendre, en tout cas, je puis très librement me déprendre », c'est-à-dire cesser d'être pris par ma résolution, puisque cela dépend de moi en définitive. Eh bien non. Lorsque nous avons pris de bonnes résolutions, nous les avons prises sous l'influence du Saint-Esprit. Lorsque nous nous déprenons et que nous abandonnons nos résolutions, cela n'est plus sous l'influence du Saint-Esprit. Et cela, le Saint-Esprit n'aime pas qu'on néglige les bonnes inspirations qu'il nous avait données. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.